Vous écoutez, on lit pour vous.
Cégepien, levez les yeux, un texte de Jean-Sébastien Bélanger, enseignant en philosophie, cégep de Sorel-Tracy, paru le 25 août dans la presse. Semaine de rentrée au cégep. Vous êtes des dizaines de milliers à investir des salles de classe comme la mienne, à donner vie, par chacun de vos gestes, à ces institutions proprement québécoises que vous fréquentez peut-être pour la première fois. J'ai une proposition à vous faire. Une qui déplaira certainement aux technopédagogues de ce monde. Une qui en fera probablement pester un certain nombre d'entre vous. Une qui vous paraîtra si utopique qu'elle révélera d'emblée la discipline que j'enseigne. Mais les temps sont plus durs que jamais pour les rêveurs dont les élucubrations pour se matérialiser nécessitent l'apport de la collectivité tout entière. Alors voilà, je vous propose de transformer le regard que vous portez sur ce geste machinal consistant à ramasser votre cellulaire pour y plonger votre regard. Je vous propose de voir ce geste non plus comme un acte banal et routinier, mais comme une action éthique comportant des ramifications profondes, mettant en péril non seulement votre propre épanouissement, mais aussi la capacité de votre institution à remplir adéquatement la mission humaniste qu'elle porte. Il est grand temps, me semble-t-il, de changer de paradigme. Ma suggestion sera donc la suivante. Je vous propose de voir cette action comme un geste vulgaire, vil, accompli la plupart du temps par une personne dépendante et donc nécessiteuse. Vous avez deviné, j'enseigne la philosophie. Et effectivement, ça ne peut être qu'un dinosaure tout droit sorti du siècle précédent pour y aller d'une idée aussi saugrenue. Seulement voilà. La farce a assez duré. On vous observe depuis des années maintenant, assis avec des collègues à la cafétéria, coupés les uns des autres, obnubilés par les pixels plutôt que par la personne juste à côté de vous. Vous avez été vus plus nombreux que jamais la session dernière à faire votre entrée dans des salles de classe laissées vacantes, parfois une heure avant que le cours ne commence, pour vous y installer dans le silence et l'obscurité totale, afin de mieux trouver refuge dans des univers virtuels. Fait nouveau, plusieurs, semble-t-il, préfèrent maintenant l'inconfort de l'habitacle de leur automobile pour s'offrir un cyberbuzz, comme de vrais toxicomanes du numérique, plutôt que de risquer la socialisation encore présente à l'intérieur des murs de l'institution. Et on observe tout cela, perplexe, pendant qu'augmentent vos troubles d'anxiété et de dépression en tout genre, pendant que les services d'aide psychologique débordent. L'éléphant dans la pièce. Alors que les administrateurs focalisent sur des taux de rétention et de réussite, que les aides pédagogiques de tout acabit chantent le refrain consistant à faire de l'espace, que vous fréquentez un lieu sécuritaire et inclusif, peu, semble-t-il, s'intéresse encore à l'éléphant dans la pièce, à savoir que la relation que vous entretenez avec la patente dans votre poche est fort possiblement l'obstacle le plus significatif à la réussite scolaire et à l'intégration sociale. La cyberdépendance ne s'est pas volatilisée lorsqu'elle s'est généralisée au sein de la population. Elle est devenue un problème qui nous afflige tous, tout simplement. Il y a quelques décennies, les salles de classe et les cafétérias étaient bondées de fumeurs, dépendant des substances addictives concoctées par les entreprises de tabac. Durant des décennies, des gens se sont empoisonnés, eux-mêmes et les autres tout autour d'eux, afin de s'offrir l'effet grisant d'une cigarette. Fumer était si profondément ancré dans la norme sociale qu'aucun ne sourcillait à la vue de l'épais nuage de fumée que chacun était condamné à respirer. tant qu'elles ne sont contestées, les idéologies et les normes ont ceci de particulier, elles sont invisibles. La formation générale que l'on offre au collégial prend racine dans le socle humaniste. On compte, au nombre des vertus que l'on voudrait développer, celles de la tolérance, de l'ouverture à l'autre et une certaine sollicitude que l'on devrait savoir manifester pour son prochain. Ce sont de telles valeurs, fondamentales au bon fonctionnement psychosocial d'une personne et de sa collectivité, qui sont désormais en danger. Si l'on doit apprendre, lors de notre passage au cégep, à être humain, il importe plus que jamais, dans cette nouvelle ère, de bien définir et défendre cette vision afin de la distinguer du post-humain à l'intelligence hybride vers lequel des idéologies techno-libérales ou transhumanistes voudraient nous mener. Parce que l'inattention que l'on porte à l'autre est au moins aussi importante que l'attention qu'on lui porte, il faut prendre conscience que l'attrait du numérique contribue à une érosion de la santé mentale ainsi qu'à une diminution des possibilités d'émancipation de tout un chacun. Cette session, chers élèves, levez les yeux et gardez la tête haute. Vous contribuerez ainsi à la sauvegarde des fondations de votre grande et noble institution. C'était « Cégepien, levez les yeux », un texte de Jean-Sébastien Bélanger, enseignant en philosophie, Cégep de Sorel-Tracy, paru le 25 août dans la presse.
Quoi pour les demandeurs d'asile. Un texte de Sarah R. Champagne et Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 18 août 2025 dans Le Devoir. Québec ne se cache pas de songer à réduire certains services offerts aux demandeurs d'asile si Ottawa n'agit pas pour diminuer leur nombre sur son territoire. La question financière est moins martelée en Ontario, qui obtient néanmoins des versements ponctuels d'Ottawa. Mais est-ce qu'une des deux provinces obtient la part du lion? La réponse à la question n'est évidemment pas simple, mais elle mérite qu'on s'y attarde, puisque l'Ontario accueille la moitié des demandeurs d'asile au pays. Le Québec bénéficie, quant à lui, d'une entente historique, l'accord Canada-Québec, qui lui donne compétences et financements en matière d'immigration, mais ne couvre pas toutes les dépenses, selon le gouvernement de François Legault. Depuis environ 2 ans, M. Legault et ses ministres invoquent les coûts liés à l'accueil des demandeurs d'asile au Québec, comme leur hébergement, l'aide sociale qui leur est versée et les services d'éducation et de santé qui leur sont rendus. En 2024, il chiffrait sa réclamation à 1 milliard de dollars pour les années 2021-2023. Pendant qu'on parle ici de pression exercée sur les services publics, en juillet, le Premier ministre ontarien, lui, réclamait plutôt des permis de travail qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté canadien, IRCC, distribue déjà. Hébergement. Ottawa a transféré des sommes spécifiques aux demandeurs d'asile par l'entremise du programme d'aide au logement provisoire, le PALP, pour un total d'environ 1,5 milliard de dollars depuis 2019, l'année de création de ce programme. Le Québec en a reçu environ le tiers, soit 542,7 millions de dollars. L'Ontario a quant à lui reçu presque le 2/3 restant. Dans la province voisine, l'argent est essentiellement passé directement aux mains des municipalités qui ont reçu au total 912 millions durant la même période, dont 670 millions de dollars pour Toronto. Mais ce ne sont pas les seules sommes que le fédéral a déboursées en matière d'hébergement. Ottawa a aussi loué des chambres d'hôtel payant plus de 1,1 milliard de dollars au total depuis 2017. Au plus fort des arrivées, en 2022 et 2023, plus de 46 hôtels étaient ainsi en partie occupés par des demandeurs d'asile d'un océan à l'autre. Cet hébergement a toujours été considéré comme temporaire, a récemment rappelé IRCC, tout en indiquant que le financement de cette mesure prendrait fin le 30 septembre 2025, du moins en théorie. Il faut aussi préciser qu'au Québec, l'hébergement temporaire initial est assuré en grande partie par le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, le PRAIDA, le PREDA. Ce programme relève du CIUSSS du centre-ouest de l'île de Montréal et il est financé avec l'argent que le ministère provincial de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, MIFI, reçoit d'Ottawa, mais cette fois par l'entremise d'un transfert régulier. Il s'agit donc d'un centre permanent d'hébergement qui accueille les demandeurs d'asile lors de leur première semaine au pays. Transferts généraux. Le Québec a aussi reçu plus de 5,3 milliards depuis 2017 de la part du fédéral pour financer les services d'accueil et d'intégration linguistique pour les nouveaux arrivants en général. Basé sur une formule contenue dans l'accord Canada-Québec de 1991, la somme augmente d'année en année depuis. Elle a atteint 775 millions pour l'exercice financier 2023-2024 et est montée à 867 millions pour 2024-2025. Ces fonds doivent servir à tous les immigrants en général, notamment pour la francisation, et non pas seulement aux demandeurs d'asile. Quant à l'Ontario, l'argent passe encore une fois ailleurs que par la province. En 2024-2025, IRCC a envoyé 519 millions directement à des fournisseurs de services d'établissement. Le plus souvent, ce sont des organisations qui accompagnent les nouveaux arrivants dans leur intégration vers le marché du travail, par exemple. Et le reste, santé et assistance sociale. Dans toutes les provinces et les territoires, les services de santé sont couverts par le fédéral, par l'entremise du programme fédéral de santé intérimaire, et ne font ainsi pas l'objet de tractations publiques. D'autres domaines sont, quant à eux, soumis à des négociations périodiques, ce qui donne davantage lieu à une joute à propos des remboursements. C'est le cas des revendications du gouvernement Legault à propos des coûts de l'aide sociale et de l'éducation aux enfants des demandeurs d'asile. Dans le budget déposé en 2023, le MIFI chiffrait les coûts engagés à 576,9 millions et au total à 1 milliard pour 2021-2023. Là-dessus, Québec a finalement obtenu 750 millions en juin 2024, dont 581,3 millions sous forme d'une subvention unique, nous écrit IRCC, par l'entremise d'une entente commune. Ce genre d'entente est intervenu à quelques reprises depuis 2017. Dès mars 2018, soit moins d'un an après le début de l'accélération des arrivées, Québec réclamait déjà un paiement de 146 millions de dollars. La province avait dû attendre le mois de juin avant de recevoir un chèque de 36 millions de dollars, une somme qui s'additionnait donc au transfert routinier en immigration. En janvier 2019, peu après son élection, François Legault revenait à la charge et réclamait un remboursement de plus de 300 millions de la part d'Ottawa. Québec finira par obtenir 250 millions de dollars au mois d'août suivant. Plus récemment, on apprenait que 507,7 millions ont été déboursés par le Québec en aide financière de dernier recours à des demandeurs d'asile en 2024. La province demande à être remboursée de la totalité de cette somme. Les demandeurs d'asile représentent ici 17% des adultes prestataires des programmes d'assistance sociale et demeurent en moyenne dépendants de cette aide pendant 11 mois, soit 10 fois moins que la moyenne des autres prestataires, a indiqué plutôt le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale au devoir. Tant en Ontario qu'au Québec, la majorité des demandeurs d'asile détiennent un permis de travail, soit plus de 70%. Les 30% restants incluent aussi des personnes avec des permis d'études, ainsi que les enfants mineurs qui, eux, n'ont pas besoin de permis pour aller à l'école primaire et secondaire. Les demandeurs d'asile sont également admissibles à l'assistance sociale en Ontario, mais la province n'a pas chiffré publiquement ses coûts. C'était « Qui paie quoi pour les demandeurs d'asile ?», un texte de Sarah R. Champagne et Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 18 août 2025 dans Le Devoir.
Les algues, une nouvelle arme contre le mélanome? Un texte de Richard Béliveau, paru le 6 mars 2023 dans le Journal de Montréal. Une étude rapporte qu'un apport accru en fucose, un sucre présent en grande quantité dans les algues, améliore l'activité anticancéreuse du système immunitaire contre le mélanome. Encore relativement peu connues chez nous, les algues sont pourtant le prototype de l'aliment idéal pour la santé. D'une part, elles ont un profil nutritionnel exemplaire, incluant minéraux, acides aminés essentiels, tous, vitamines, fibres et matières grasses insaturées, incluant des acides gras oméga-3 à longue chaîne, comme ceux présents dans les poissons gras. D'autre part, les algues ont la particularité de contenir également certains polymères de sucre complexe, comme la fucoïdane, formée de longues chaînes d'un sucre particulier, appelé L-fucose, et qui augmente l'activité de l'immunité anticancéreuse. Immunité en panne. L'intérêt porté à la stimulation des cellules immunitaires impliquée dans l'élimination des cellules cancéreuses par les algues provient des limites rencontrées par les médicaments d'immunothérapie développés jusqu'à maintenant. Ces médicaments ont dans certains cas des activités thérapeutiques extraordinaires contre certains cancers agressifs, les mélanomes en particulier. Mais ces succès sont assombris par l'absence complète de réponse observée chez plusieurs patients. Dans la plupart des cas, il semble que cet échec de l'immunothérapie soit causé par une quantité insuffisante et une activité déficiente des cellules tueuses à l'intérieur des tumeurs, ce qui laisse le champ libre aux cellules cancéreuses pour poursuivre leur progression. Fucose à la rescousse. Contrairement à d'autres sources de sucre alimentaire, glucose, fructose, sucrose, le fucose n'est pas utilisé par les cellules comme source d'énergie, mais est plutôt ajouté à la structure de plusieurs protéines présentes à la surface des cellules. Cette réaction biochimique appelée fucosylation joue un rôle extrêmement important dans la fonction de ces protéines, notamment celles impliquées dans la réponse immunitaire. Il est donc possible que les anomalies immunitaires observées chez certains patients et qui compromettent l'efficacité de l'immunothérapie puissent être liées, au moins en partie, à une insuffisance de fucose. Les résultats d'une étude récemment publiée dans la très prestigieuse revue Nature Cancer abondent dans ce sens. Dans cette étude, les chercheurs ont observé que l'ajout de L-fucose à l'alimentation d'animaux porteurs de mélanome provoquait une diminution importante, 50 % de la croissance des tumeurs. Cette réduction coïncidant avec une hausse spectaculaire, jusqu'à 50 fois, du nombre de cellules immunitaires présentes à l'intérieur du micro-environnement tumoral. Cette infiltration des cellules immunitaires serait la conséquence de l'ajout de fucose à l'antigène d'histocompatibilité HLA-DRB1, une protéine qui agit comme un véritable agent de recrutement des cellules immunitaires et les attire au niveau de la tumeur où elles peuvent entrer en action et attaquer les cellules cancéreuses. Il est probable qu'un phénomène similaire soit à l'œuvre chez les humains, car les chercheurs ont observé que les patients atteints de mélanome qui présentaient les plus forts niveaux de fucosylation étaient également ceux qui répondaient le mieux à l'immunothérapie. Ces observations suggèrent donc que le L-fucose pourrait s'avérer un moyen simple d'augmenter les quantités de cellules immunitaires anticancéreuses à l'intérieur des tumeurs et ainsi de bonifier l'efficacité de l'immunothérapie. Cette stratégie est faisable, car des études précédentes ont montré que l'utilisation du L-fucose comme thérapie expérimentale pour traiter des enfants atteints de désordres immunitaires rares, déficit d'adhésion leucocytaire, était sécuritaire et dépourvu d'effets secondaires graves. C'était « Les algues, une nouvelle arme contre le mélanome », un texte de Richard Béliveau, paru le 6 mars dans le Journal de Montréal.
En tête de volée. Un texte de Denise Ashruby, paru le 21 août dans la presse, d'abord paru dans le New York Times. À Elsingen, en Allemagne, Johannes Fritz, un biologiste autrichien hors du commun, devait à nouveau trouver un plan pour empêcher l'extinction de ces oiseaux rares et bien-aimés. Pour survivre à l'hiver européen, l'ibis chauve, qui avait autrefois entièrement disparu à l'état sauvage sur le continent, doit migrer vers le sud pour l'hiver en passant par les Alpes avant que les montagnes ne deviennent infranchissables. Mais les changements climatiques ont retardé le moment où les oiseaux commencent à migrer et ils atteignent maintenant les montagnes trop tard pour franchir les sommets, ce qui les enferme dans un piège mortel de glace. Dans 2 ou 3 ans, ils auraient à nouveau disparu, a déclaré M. Fritz. Déterminé à les sauver, M. Fritz a décidé d'enseigner aux oiseaux une nouvelle route de migration plus sûre en les guidant lui-même à bord d'un petit avion. Il était convaincu de pouvoir mener à bien ce projet audacieux et non conventionnel, car il l'avait déjà fait auparavant. Lorsque M. Fritz est né, il y a 56 ans, l'ibis chauve, un oiseau noir de la taille d'une oie, à la tête chauve et au bec énorme, n'existait en Europe qu'en captivité. Il y a 400 ans, les Européens ont probablement dévoré les derniers ibis chauves. Mais M. Fritz a passé sa carrière à réintroduire ces oiseaux dans la nature et une partie essentielle de leur éducation a consisté à enseigner aux jeunes la voie de migration qu'ils suivront à l'âge adulte. Johannes Fritz a appris à voler en modifiant un avion ultra-léger pour qu'il puisse voler à des vitesses suffisamment lentes pour que ses élèves ailés puissent suivre. Il était le seul à nourrir, aimer et câliner ses jeunes élèves depuis qu'ils n'avaient que quelques jours, et les ibis suivaient avidement leur professeur, qui pilotait justement une machine assez bruyante. En 2004, 3 ans après quelques expériences difficiles, M. Fritz a conduit la première volée de l'Autriche vers l'Italie et a depuis dirigé 15 migrations de ce type. Au cours de cette période, il a réappris à vivre à 277 jeunes ibis, dont beaucoup ont ensuite commencé à transmettre la route à leurs propres petits. De nouveaux défis. Mais la route qu'il a enseignée aux ibis à l'origine n'est plus viable. Avec les changements climatiques qui réchauffent la région où les oiseaux passent l'été, au bord du lac de Constance, en Allemagne et en Autriche, ils commencent désormais leur migration à la fin du mois d'octobre plutôt qu'à la fin du mois de septembre, comme c'était le cas il y a seulement 10 ans. En 2022, alors qu'il suivait la progression des oiseaux, M. Fritz a constaté que la neige recouvrait les plumes des ibis et que leur long bec avait du mal à trouver des larves et des vers dans le sol gelé. 3 colonies d'ibis ont tenté à 2 reprises de traverser les montagnes en novembre, mais ont échoué chaque fois. M. Fritz a émis l'hypothèse que les flux d'air chaud ascendant étaient trop faibles en novembre pour permettre aux oiseaux de s'élever facilement au-dessus des montagnes. M. Fritz et son équipe ont attiré des animaux voraces avec des vers de farine, les ont enfermés dans des caisses et les ont conduits à travers les Alpes. Mais M. Fritz reconnaît qu'un service d'autocar privé n'est pas une solution durable et il a donc eu l'idée de montrer aux oiseaux une nouvelle voie de migration. Cet été, au lac de Constance, les hommes et les oiseaux ont suivi une école de pilotage s'entraînant au vol accompagné pour leur voyage épique. D'ici au mois d'octobre, ils espèrent atteindre la côte atlantique sud de l'Espagne, près de Cadix, où les oiseaux pourraient passer l'hiver en toute tranquillité. En contournant les imposantes Alpes, le nouvel itinéraire est d'environ 4000 km, soit 3 fois plus long que le précédent, qui allait directement au sud de la Toscane. Les oiseaux volant à une vitesse maximale de 40 km/h, le voyage devrait durer environ 6 semaines contre 2 pour atteindre la Toscane. Vous écoutez « En tête de volée », un texte de Denise Achruby, paru le 21 août 2023 dans la presse, d'abord paru dans le New York Times. Un point noir. Ayant grandi dans une ferme de montagne au Tyrol, M. Fritz aimait observer comment les vaches et les chevaux interagissaient plus librement entre eux, en se bécotant et en jouant, une fois qu'ils avaient été conduits hors de l'étable et dans les pâturages. Ses observations de jeunesse ont nourri son rêve de devenir biologiste. À 20 ans, il s'est inscrit à un programme qui lui permettait à terme d'étudier la biologie à l'université, mais il a d'abord dû suivre une formation de chasseur de l'État, responsable de contrôler les populations animales locales. Sur un terrain alpin accidenté, il surveille la santé des troupeaux de chamois et de cerfs, tout en refusant de les tuer. Une seule fois, en raison de l'insistance de son chef, il a appuyé sur la gâchette. Un faon orphelin qui serait mort, raconte M. Fritz, qui qualifie cette fusillade de « point noir » dans sa vie professionnelle. Il a 24 ans lorsqu'il commence enfin à étudier dans les universités de Vienne et d'Innsbruck. Il a ensuite décroché un emploi au centre de recherche Konrad Lorenz en Autriche, où il a élevé des corbeaux à la main et appris aux oies cendrées à ouvrir des boîtes pendant qu'il préparait son doctorat. Travailler en étroite collaboration avec des animaux vivant en liberté était exactement ce dont il avait rêvé dans son enfance. En 1997, un zoo a offert au centre de recherche ses premiers poussins d'ibis chauves. Loin d'être aussi dociles que les oies et loin des corbeaux super intelligents, les ibis ont frustré la plupart des scientifiques. Mais M. Fritz est tombé sous le charme. Lorsque les gens plaisantent sur le fait que leur tête rouge et ridée et leur mohawk noir les placent dans la course à l'oiseau le plus laid du monde, ils mettent en avant leur charisme, leur grégarité et leur affection. Il sait ce que les poussins adorent manger, des souris déchiquetées et du cœur de bœuf, 8 fois par jour, et les oiseaux curieux aiment planter leur long bec délicatement dans ses oreilles. Le guide Fritz. Après avoir relâché les ibis dans la nature, il y a plus de 20 ans, M. Fritz a appris que le fait d'avoir passé des générations dans un environnement zoologique confiné n'avait pas atténué leur volonté de migrer, même si cela les avait laissés mal informés sur le plan géographique. Dans leur quête du sud, certains se sont retrouvés en Russie. Ce dont les ibis avaient besoin, pensait M. Fritz, c'était d'un guide. À cette époque, Fly Away Home a connu un grand succès auprès des biologistes, explique M. Fritz, rappelant le film de 1996 dans lequel les personnages interprétés par Jeff Daniels et Anna Paquin dirigent la migration d'oies du Canada orpheline à bord d'un deltaplane. Lorsque M. Fritz a annoncé qu'il ferait de même avec les ibis, il a d'abord été ridiculisé. Mais après des années d'essais et d'erreurs, il a réussi. Il a même appris à voler comme un oiseau, dit-il, s'élevant avec facilité. Aujourd'hui, il donne la priorité à la sécurité, en partie parce qu'il n'est plus le seul à prendre des risques. Les ibis sont désormais élevés par 2 assistantes de recherche qui font office de mères nourricières humaines, l'une volant à l'arrière de l'avion de M. Fritz, l'autre avec un second pilote. Par une matinée chaude, sur leur site de camping du lac de Constance, M. Fritz referme sa combinaison vert olive et saute dans son avion, se retournant pour vérifier l'état des 35 ibis et faisant signe à l'une des mères nourricières de s'asseoir sur le siège derrière lui. Alors qu'il s'élève au-dessus de la piste d'atterrissage herbeuse, les oiseaux battent de leurs ailes noires et les suivent de près. Bientôt, ils s'envoleront vers l'ouest en direction de la France, puis vers le sud en direction de la Méditerranée, où ils longeront la côte jusqu'en Andalousie, l'une des régions les plus chaudes et les plus sèches du continent, affrontant en chemin des conditions météorologiques imprévisibles. Mais les risques inévitables sont nécessaires, a déclaré M. Fritz. Ce n'est pas tant un travail, a-t-il ajouté, que le but de ma vie. C'était « En tête de volée », un texte de Denise Ashruby paru le 21 août dans la presse, d'abord paru dans le New York Times.